Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Ça marche?
Ça marche? Tant mieux. Je suis pas sûre de garder autant mon sang-froid si la lumière s'éteint. Alors, merci pour cette belle introduction. Enfin, à venir après, monsieur Soulès. On a décidé de faire un duo parce que s'il y a bien une chose qui définit notre travail, c'est qu'on travaille en réseau. Et autant on a spécifié notre réseau interne, autant il y a un réseau que vous représentez. Je ne vais pas le redire, mais vous êtes là parce qu'on bosse ensemble. Donc, moi, je suis Vanessa Bocher, je suis infirmière spécialiste clinique en addictologie à la direction des soins de l'HUG. Et ma collègue, il faut qu'elle présente.
Bonjour, je suis Christelle Dain, Moody, pour les Jamois. Je travaille au CAPA, le service d'addictologie, donc du département de psychiatrie. Il y a certaines personnes du même service-là, donc il y a une structure ambulatoire qui est au CAPA, avec principalement des personnes souffrant de problèmes d'addiction aux opiacés, une autre structure ambulatoire aussi avec d'autres problèmes d'addiction qui sont le sexe, vidéo, cocaïne, et tout ce qui ne nécessite pas de traitement aux opiacés, et encore un service hospitalier qui s'appelle Vita.
Voilà, donc nous on va travailler sur les... On va présenter un peu les enjeux. Bon, on va... Je vais être assez direct. Les enjeux, ils sont assez simples, mais ils sont complexes. C'est travailler en réseau, comme je vous l'ai exprimé, interne et externe. C'est cibler la bonne problématique. On ne peut pas, on a évoqué la précarité, on ne peut pas se dire, voilà, il est précaire, il est migrant, il est addict, et se dire, bon, voilà, il y a un protocole de soins. Non. Il y a des besoins derrière, il faut les identifier. Et puis, on a évoqué avec M. Soulet la temporalité. Cette temporalité, elle est dans les soins. On ne peut pas faire ce travail de transition sans du temps. Et dans la réalité des soins, c'est des fois très compliqué. Mais il faut le garder en tête parce que sinon, on se trompe de cible. Donc voilà, l'idée, évidemment, est d'avoir une accessibilité aux soins de santé en continuité. Ça, c'est notre défi. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait? On fait pas. Voilà. Je vais quand même un tout petit peu remettre, parce qu'il y a une histoire de représentation, de dire on a des représentations négatives, nous aussi, sur le terrain. Je voudrais juste un petit peu remettre dans le contexte. La majorité des migrants qui arrivent dans l'Union européenne ont entre 18 et 34 ans. C'est le groupe d'âge qui est le plus concerné par les usages de substances. Par contre, leur taux de consommation est inférieur que dans la communauté d'accueil. C'est intercondition, je pense. Il y a effectivement des gens qui sont plus sensibles, vulnérables à la consommation de produits. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inactivité, il y a les traumatismes, il y a la perspective qui n'existe pas forcément. Mais c'est surtout les conditions de vie dans le pays d'accueil. Et là, M. Soulet, je pense, terminait bien sur ce que nous pouvons faire pour modifier ces conditions. Les substances, elles servent à quoi finalement? Bon, on va peut-être en lecture. Moi, j'ai bien l'idée de la gestion. Mais bon, il y a de l'ennui, il y a la précarité, il y a la discrimination, la stigmatisation, etc. Et évidemment, les addictions, c'est aussi une sous-culture. C'est aussi appartenir à un groupe. La méconnaissance des substances favorise cette vulnérabilité comme la méconnaissance du réseau. Donc, il y a tout un travail d'information. Et puis je pense aux mineurs, parce que ceux qui arrivent en étant adultes, on verra aussi avec une collègue de l'étoile, du foyer de l'étoile, évidemment il y a les mineurs qui vont devenir majeurs et qui seront une population vulnérable. Donc voilà, la question c'est comment garantir ce même accès aux soins. Alors nous avons donc une équipe de liaison que je représente, mais nous sommes trois, je tiens à le dire, au sein de l'hôpital. Nous choisissons évidemment des valeurs, un cadre, évidemment on va adapter à la personne, mais il est bien clair qu'il s'agit d'offrir la même chose à tout le monde. Il n'est pas question de faire des différences. Il y a une notion d'équité.
Le corps est une porte d'entrée. Et c'est très important que nous ayons cette conscience-là et que nous donnions cet espace à ce corps. Et donc, les urgences font partie d'une porte d'entrée à l'hôpital et c'est une opportunité. Mais c'est une opportunité pour toutes les personnes addictes. C'est ne pas particulièrement spécifique aux migrants. Nous avons tout un programme et d'échanges de seringues et de conseils en réduction des risques. Nous avons un rôle de médiation pour entre la personne et les équipes de soins par rapport à ses conduites addictives, par rapport à ses besoins spécifiques. Nous collaborons beaucoup avec notamment la consultation transculturelle qui offre des outils, qui offre des recommandations très importantes. Le cas de évidemment, pour ce qui est soins et financement. Nous avons le service d'addictologie dont ma collègue va parler plus de ses avantages. Et évidemment, nous avons aussi un rôle de formation, que ce soit dans l'enseignement, les ateliers, les analyses pratiques. Très important aussi, pour faire évoluer chaque fois notre façon d'aborder les choses. Ça, c'est un travail quotidien, jamais lâché, jamais, 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 parce qu'à l'hôpital, les équipes changent souvent, donc il faut relire, réexpliquer, etc. Donc voilà, maintenant je passe la parole à ma collègue qui va parler de l'ambulatoire, qui est très important dans ce pays.
Donc, bonjour à tous. Effectivement, en ambulatoire, au niveau de la consultation du CAPAR, nous avons un dispositif d'accueil, donc nous sommes deux collègues. Dispositif d'accueil, ça veut dire que nous allons accueillir toutes les nouvelles demandes de soins qui vont revenir soit d'eux-mêmes, donc on en reçoit, c'est les chiffres des 4 dernières années, on est en train de finaliser cette année, entre 120 et 180 nouvelles demandes de soins. Là, je parle de manière générale, donc ça peut être soit des personnes qui font leur propre demande par eux-mêmes pour venir en ambulatoire recevoir un traitement et travailler aussi un objectif de soins, de pouvoir se reconnecter avec un projet de vie aussi. Ça peut être des collègues justement d'intra de l'hôpital, ça peut être Argos, ça peut être la psychiatrie, la prison. Donc voilà. Au niveau des migrants, donc il y a la partie des requérants d'asile, ça constitue à peu près entre 8 et 10%. Soit ils sont envoyés aussi par le programme Santé Migrants, soit ils viennent par eux-mêmes. Soit K9, on travaille aussi beaucoup avec K9, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de K9 ici? Pour les requérants d'asile, au niveau de la structure d'accueil, c'est un petit peu plus simple, dans le sens où ils sont déjà inscrits dans des soins. Du moment où ils sont requérants d'asile, ils ont déjà une assurance maladie d'office, qui est donc Swiss Risk, et qui leur garantissent effectivement des soins dans toute la structure socio-sanitaire genevoise. On a ensuite effectivement un autre type de population qui sont donc les précaires, les grands précaires. Donc, précaires, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, c'est prié, mais c'est des personnes qui n'ont rien, qui ont perdu leur statut, qui n'ont plus de papier, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas d'endroit où dormir, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de permis d'établissement, qui n'ont vraiment rien. Ça, c'est majoritairement des personnes, je dirais, qui sont hors communauté européenne et pour lesquelles les statuts, les demandes d'asile ont été refusés ou impossibles. Ça peut être aussi des personnes qui vivent à Genève, des jeunes patients qui ont eu un parcours de vie, effectivement, de consommation et qui ont finalement perdu leur statut. Quand on a des personnes dites CAMSCO, ils s'appellent comme ça, donc CAMSCO c'est le centre obligatoire mobile des soins communautaires, on essaye de faire des entretiens d'entrée directement avec une collègue assistante sociale pour qu'elle puisse mettre en place des demandes de financement auprès du CAMSCO. C'est pratiquement toujours accepté, renouvelable tous les 6 mois et qui permettent un accès aux soins égal et paritaire. Équitable pour ces personnes-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler effectivement, que ce soit requérant d'asile ou CAMSCO, ce qu'on appelle CAMSCO, mais d'autres cultures. On travaille beaucoup les composantes culturelles et les problèmes de santé. Par exemple, on sait que les personnes qui sont d'origine de Géorgie vont être des consommateurs. Si on regarde au niveau géographique et culturel, sur la route des opiacés, vont être des personnes qui vont consommer de l'héroïne en injection. Vous prenez quelqu'un qui vient par exemple de Nord-Afrique pour des questions culturelles et de consommation dans leur pays et d'accessibilité et d'accès aux financiers vont être des grands consommateurs de benzo, donc du rivotril. Ce qui pour nous veut dire aussi que dans les prises en charge, on va individualiser. Mais pas tout le monde pareil parce que monsieur arrive de Géorgie, que monsieur arrive de l'autre endroit. On va travailler aussi, donc effectivement, tout ce qui est les maladies transmissibles avec un focus important sur les hépatites C, puisque l'OMS a déclaré que l'hépatite C pouvait être éradiquée ces prochaines années. Donc ça permet aussi l'accessibilité aux soins. Par exemple, les injecteurs vont être effectivement beaucoup plus sensibles et vont présenter des risques pour l'hépatite C. Donc, accès aujourd'hui aussi, que ce soit CAPSCO ou requérant d'asile, accès aux soins et aux traitements. On va aussi distribuer donc, du matériel propre à la demande. Alors, à la demande, il y a quand même une directive de service, hein, c'est la directive de service. Le matériel propre, c'est deux boîtes de flash, boîte flash à la demande, mais quand la personne vient chercher son traitement. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et qui vient demander. On va les envoyer plutôt dans le réseau qui sera le réseau de K9 ou en pharmacie, chercher leur matériel propre. Et puis, on va travailler aussi les types de substances et les conséquences. Alors, les consommations récréatives ou capables, elles n'existent pratiquement plus. Hein. C'est plus dépasser un stade comme ailleurs. Ce qu'on craint beaucoup et ce qui est difficile actuellement, c'est effectivement les consommations de Dormicum. Et donc, pour tous les consommateurs de ces substances-là, qui est extraordinaire parce qu'elle permet une amnésie totale, ça leur permet d'oublier effectivement certains traumatismes, ça leur permet d'oublier que le futur est peu certain. Mais par contre, ça nous empêche, nous aussi, et pour eux, d'avoir accès à leurs propres émotions et de pouvoir continuer comme un projet de vie. C'est le but du Dormicum, malheureusement, qui est très peu marché. Et puis, on va surtout avoir un focus important pour les personnes qui, par exemple, vont sortir de Chandelon, dans le sens où c'est une structure qui est protégée. Donc, très souvent, il y a des sevrages de méthadone, et à la sortie, eh ben, on recommence les consommations peut-être récréative à des doses extrêmement fortes et risque d'overdose existant. On n'a pas de risque, on n'a pas d'overdose par rapport aux opiacés. Les overdoses qui existent, c'est les overdoses de mélange avec des benzodiazépines. C'est ça, c'est souvent des intoxications. Alors, quelles difficultés ? Difficultés, bah, comme nous, quand on travaille dans un réseau avec les migrants, c'est très riche parce qu'il faut travailler avec les croyances et les représentations. Donc, la méthadone est très vilaine, très vilaine représentation. Si on a des hépatites C, si on est malade, si on a mal au muscle, c'est à cause de la méthadone. Donc, c'est aussi de travailler des usages, des représentations. On essaye, et ça c'est très compliqué, c'est que les patients finalement qu'on a, effectivement, on a parlé tout à l'heure de la double stigmatisation sociétaire, enfin, pardon, mais très bien expliqué, mais communautaire. Ça veut dire aussi qu'au sein même de leur communauté, c'est des personnes qui sont stigmatisées, ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver encore plus seuls et plus à même de finalement rencontrer que d'autres personnes qui consomment. Ce qu'on va essayer de créer avec eux, c'est toujours de poser la question, est-ce que vous avez encore quelqu'un, une famille ou un cousin, ou quelqu'un avec qui garder contact et reprendre un autre réseau. À part les amis de consommation, hein, le réseau de consommation qui peut être créé, et bien nous sommes le deuxième réseau. On voit le matin, donc on ouvre à 7 heures. C'est les premières personnes qui sortent de l'APC, ou en tout cas il fait jour, ils viennent prendre leur traitement, ils attendent, on en parlait, que le carré ouvre, qui reste à la consultation, ou alors, après qu'il arrive, ils reviennent en attendant que qu'il leur fout. Donc c'est vrai que pour nous, à la base, c'est une structure d'accueil, mais ça ne devrait pas être dans ce sens-là. Ça ne pose aucun souci, mais il manque quelque chose, en tout cas, entre ces points ouverts, il manque quelque chose. Et aussi, donc, de nouveau, important, on a travaillé dans un projet de soins, effectivement, qui est un projet de vie, et pour aller où ? Alors, sans dire un jeu de mots, mais c'est vrai que quand on est dans une situation où sans papier, ça veut dire pas de travail. Pas de travail, ça veut dire pas de projet. Donc, ça prend du temps et c'est vraiment important de pouvoir essayer de recréer un projet de soins, de vie, peut-être un retour. Et donc, c'est ce que je disais aussi, hein, avec une activité. L'inactivité, c'est le meilleur ami de la consommation. Par chance, il y a une œuvre qui peut permettre d'avoir quelques activités, donc il y avait, je ne sais pas. Et puis, effectivement, ça s'est lancé à l'action. Voilà, c'est pas grave.
Oui. C'est la maquette pour faire jeune.
Ah. Bon, on va le mot de la fin, c'est que l'avenir, c'est continuer ce travail avec vous tous. Hein. Et puis, ça peut exister par des groupes de réflexion, les maintenir, les faire vivre, enfin voilà, ne pas cesser s'endormir dans notre zone de confort. C'est peut-être aussi la continuité culturelle, à travailler plus dans notre réflexion professionnelle, que ce soit dans des outils, mais comme dit Christelle, de raccrocher avec la culture d'origine. C'est évidemment, je m'adresse vers Muriel Lasser. Voilà, ma vie, elle est en partie. Évidemment, on a besoin d'espaces d'accueil et de logement. Ouais, ça, j'y tiens énormément. On ne peut pas soigner quelqu'un qui sera dans la rue. C'est une vie, qu'il soit migrant, qu'il soit suisse. Davantage de prévention pour les mineurs. Donc, merci à vous tous pour cette collaboration.